Merci pour l'invitation, merci pour l'accueil. Je te rassure, moi aussi, j'ai des crampes apostoliques. Faisons un petit tour avec Israël. On va partir en balade avec Israël, au temps de l'Exode. On est dans le désert, avec le livre des Nombres. Et c'est la première image où on voit le désert. Voilà. On s'imagine partir en balade avec Israël. C'est une balade, une promenade de santé. Oh non, pas tout à fait. Ils ont quitté l'Égypte après 4 siècles d'esclavage. Et ils sont dans le désert, ils s'organisent. Dans le livre des Nombres, on va nous raconter des préparatifs. On va dénombrer l'armée. C'est pour ça que ça s'appelle Livre des Nombres, parce qu'il y a deux recensements. On va dénombrer l'armée, on va organiser la conquête de la terre promise. Donc, ce n'est pas le Club Med, la terre promise, hein. C'est une mission. Parce qu'Israël n'a pas été constitué pour être le chouchou de Dieu. Ce n'est pas le préféré de la bande. C'est celui qui est chargé de mission. Et donc, on se dit, ah, la terre promise, on va poser ses valises, du lait, du miel. Oui, mais aussi des géants. Et alors Israël, qui a vite fait d'oublier qu'il est sorti de l'esclavage, commence à se plaindre. Alors, c'est encore loin, qu'est-ce qu'on a pour le pique-nique? De la manne? Ben non, on voulait de la viande et des légumes. Entre parenthèses, comme quand on était des esclaves. Et pourquoi c'est Moïse qui commande? Il n'y a pas que lui. Et à cause de cette récrimination, la sœur de Moïse va choper la lèpre, si je puis dire. On a soif, on a peur des géants. Et Israël va se plaindre, et c'est la deuxième image que j'ai choisie. Israël râle, Israël rouspète, bringue. Comment dire quand on te vaut? Meule. Et c'est assez embêtant parce que c'est très récurrent, cet esprit de plainte. Et c'est très embêtant parce que ça va le conduire à désobéir. Et c'est très embêtant parce que c'est une offense à la sainteté de Dieu et que Dieu va se mettre en colère. Et malgré le pardon que Dieu va accorder à Israël, parce que Moïse va faire un sitting au pied de Dieu, il va dire pardonne. Et Dieu va dire je leur pardonne, mais ils vont assumer. Et ils vont, au lieu d'un voyage de 4 mois, rester 40 ans dans le désert. Donc quand Dieu pardonne, il arrive qu'il nous laisse assumer les conséquences de notre plainte. Et les plaintes étaient légitimes pour Israël. 2 ans dans le désert, la terre qui s'infiltre partout, la manne tous les jours. Moi, j'aime beaucoup le riz, j'ai pitié des gens qui doivent manger du riz 3 fois par jour et qui n'ont rien d'autre. Alors, la manne, mais Dieu va m'en redonner de la viande, hein, jusqu'à ce qu'ils en soient malades. Ça ne se passe pas bien, hein. C'est difficile. Pourtant, Dieu dit à Israël, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Je suis bienveillant. Et quelques chapitres avant, en Nombre 6, il va donner une bénédiction. Il va dire, voici en quels termes vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te protège. Quand l'Éternel te regarde avec bonté. Et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites, et moi, je les bénirai. Et Israël se plaint. Il n'a pas bien compris. Ça va percuter. On aurait tort de leur jeter la pierre, même si c'est encore une pierre de désert, parce qu'ils avaient à peine la Torah, ils avaient à peine les 5 livres, les 5 premiers livres. Nous, on a la version complète. Ils étaient au début de leur histoire, on peut comprendre. On va faire un petit focus sur un épisode au chapitre 11. On est juste après les premiers préparatifs de départ, recensement, organisation de l'armée. Très vite, des murmures, la colère de Dieu, des punitions. Et puis Moïse qui se plaint de ne pas s'en sortir avec ce peuple rebelle, Luc Red, je comprends très bien parce que je me suis un peu bloquée ici et j'étais comme ça depuis hier matin. Et je me dis, ah, je suis d'un peuple à la Luc Red. Mais Dieu il dit souvent, écoute Israël. Il dit, en hébreu, il dit Shema Israël. Écoute. Mais Dieu entend aussi et il agit. Et donc, il va s'occuper de la femme de Moïse. Donc, on fait un focus sur le chapitre 11, au verset 24. Moïse sortit rappeler au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes pris parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. En effet, ils figuraient sur la liste des 70, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente et ils prophétisèrent dans le camp. Alors un jeune garçon accourut, annoncé à Moïse, « Eldad et Médad, ils prophétisent dans le camp !» Josué, fils de Noun, qui est au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon Seigneur, empêche-les-en » Et Moïse répond, « Es-tu jaloux pour moi ? Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. » Et Moïse retourna dans le camp, ainsi que les anciens d'Israël. On sent un petit peu des prémices de Pentecôte. Hein. L'Esprit descend. L'Esprit de Dieu, il était confiné dans un certain lieu saint. Mais là, il se répond. Et Israël dit, ah non, c'est pas comme ça que c'était annoncé. On a dit que c'était sur les 70, mais ils n'étaient pas dans la tente. Mais pourquoi? Mais si, mais ça, ça brinque de nous. Et Moïse clarifie, dit, mais non, Dieu veut répandre son esprit. De nouveau, ce n'est pas un privilège réservé. Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes. Parce que Dieu parle. C'est pas Dieu qui parle. Ce n'est pas simplement pour faire la conversation. S'il veut parler, il veut qu'on écoute. J'ai choisi une image que l'un de mes amis a sculptée, c'est l'oreille d'Élie qui écoute le doux murmure de la voix de Dieu. Combien de fois dans la Bible Dieu dit « Écoute Israël, j'ai quelque chose à te dire ». Dieu a envie d'entrer en relation. Il n'en a pas besoin. Il a une relation parfaite d'amour à l'intérieur de lui-même, dans la Trinité. C'est une chose qu'on a un petit peu de la peine à comprendre. C'est une réalité. Il n'avait pas besoin des hommes. Mais il a choisi. Et il veut entrer en relation. Et depuis le jardin d'Éden, il ne cesse de chercher à restaurer cette relation. Il cherche une relation d'amour, n'est-ce pas? C'est pas un rendez-vous d'affaires. C'est pas un rendez-vous de leadership où Dieu donne des ordres et nous on obéit. Ça, ça vient après. Le préalable indispensable, c'est la relation. Parce que, écoute, Israël, ça précède souvent une liste de ce que nous appelons des commandements qui sont en réalité des paroles à vivre, des paroles pour développer la vie. Ce sont des invitations. Le Seigneur veut être reconnu. Il veut être reconnu pour Dieu. Il veut être reconnu pour Père. Il veut être reconnu pour qui il est et pour le besoin de relation que nous avons de lui. Plus tard dans l'histoire d'Israël, Jésus, qui est pleinement Dieu, et pleinement homme dira, mes brebis écoutent ma voix, elles reconnaissent ma voix et elles me suivent. On voit que c'est un petit peu différent pour Israël, qui n'avait pas encore connu Jésus. Et dans cet appel de berger, Moïse a été en berger. On entend toute la tendresse de Dieu. C'est le même appel que Dieu adresse à Israël, le conduisant à la manière d'un troupeau. Et parfois, cet esprit de Dieu s'est manifesté dans la nuée, dans la colonne de nuée ou dans la colonne de feu. Et l'eau et le feu, plus tard, ça symbolisera le Saint-Esprit. Donc, on voit déjà que Dieu veut annoncer des choses. On voit déjà que Dieu prépare le terrain. Et là, on comprend à quel point il est important de lire l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau et d'utiliser le Nouveau Testament pour comprendre ce que Dieu a fait comme préparatif dans l'Ancien Testament. Pour reconnaître Dieu, il faut apprendre à l'écouter. C'est un apprentissage. Donc, ça demande du temps. Ça demande du rendez-vous. Du temps mis à part. Ça demande de la confiance. Moi, je suis une faible de la confiance. J'ai beaucoup de peine à faire confiance. Et je dois beaucoup travailler ça dans ma relation avec Dieu. Des fois, ça demande de l'audace de faire confiance à Dieu. Ça demande de renoncer à des peurs. Vous avez peur des gens? Pourtant, Dieu a dit, je vais vous donner la paix. Vous avez peur des gens? Ça demande de la pratique. Faire confiance à Dieu, c'est reconnaître son discours. Quand le berger dit « elles reconnaissent ma voix », ça veut dire qu'elles l'ont entendu beaucoup. Et que sans le voir, elles entendent d'après le son de savoir que c'est lui. Parfois, vous entendez quelqu'un parler, ou vous lisez une phrase et vous dites « ça, je sais qui c'est ». On l'invite à entrer dans cette habitude d'intimité avec Dieu pour le reconnaître. Écoutez, reconnaître, c'est identifier et approfondir notre connaissance de Dieu. Et Dieu dira, les commandements que je te donne, je les mettrai dans ton cœur. Je vais graver ma loi dans ton cœur. Quand l'Esprit descendra, la loi sera dans le cœur, elle ne sera plus extérieure, elle sera dedans, parce qu'il y aura une transformation. Donc la proximité avec Dieu, ça nous transforme. Si Dieu veut communiquer, c'est qu'il veut se faire connaître. Et s'il nous parle, c'est parce qu'il nous aime. Il veut nouer avec nous une relation qui nous le fait comprendre, connaître et aimer. On n'est pas abandonné dans le désert. On n'est pas abandonné dans cette crise
qui se trouve être un désert. Là, on voit que l'assemblée est clairsemée. Mais on est heureux de savoir que derrière l'écran, il y a le reste de l'Église. Mais on se sent seul, hein. Et puis dans la souffrance, on peut dire, où est Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur, pendant que je rame comme un galérien? Et ce n'est pas parce qu'on ne voit rien que Dieu ne fait rien. Mais pour résister à cette tentation, il faut être près de Dieu. Et là, il y a un défi d'obéissance à l'espérance. Parce que le mot qui est utilisé pour écouter, qui dit « chemin » en hébreu, c'est un mot à deux facettes, comme une pièce de monnaie. On ne peut pas séparer les deux faces de la pièce de monnaie. Et d'un côté, le mot « chemin », il dit « écouter ». Et de l'autre côté, le mot « chemin », il dit « faire ». Il dit « prête attention ». C'est comme quand un père dit à son enfant « écoute ». C'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, arrête-toi, écoute, je vais te montrer comment il faut faire. Ou bien quand l'enfant a fait des bêtises et qu'on dit « Oh, tu ne m'as pas écouté ». Ce qu'on sous-entend, c'est « Tu n'as pas fait comme j'ai dit ». C'est ça que veut dire le mot « chemin ». Et quand on se tourne vers la réalité d'en haut de Dieu, on se rend disponible à faire la volonté de Dieu. Il faut aussi pour ça se rendre disponible plus à l'action de l'esprit qu'à nos propres besoins. Souvent, nos propres besoins sont légitimes. Ben oui, le peuple d'Israël, c'était pas drôle. Mais Dieu avait promis, il y avait l'espérance. Et il faut plus écouter l'espérance que nos propres besoins. Et cela, l'Église persécutée le sait très bien. Et ça la rend plus forte. C'est la preuve que la résilience, c'est d'écouter d'abord Dieu ou de l'écouter de façon prioritaire
plus que nous-mêmes. Nous pensons volontiers que prier, c'est parler à Dieu. Le livre des Noms nous montre que quand Dieu parle, c'est nous qui sommes invités à écouter d'abord, ensuite à appliquer. Quand le peuple, quand le jeune garçon va dire, ils n'étaient pas à la tente et ils prophétisent quand même, il est en train de dire, c'est pas la bonne méthode. Il est en train de dire à Dieu, c'est pas comme ça que ça devait se passer. C'est comme s'il disait à Dieu, peut-être que je sais mieux que toi. C'est gonflé, mais c'était un gamin. Est-ce que l'Esprit de Dieu ne souffle pas là où il veut? Est-ce qu'il ne peut pas avoir la liberté de donner des consignes aussi contraignantes que ça nous semble? Est-ce que parfois nous n'imitons pas l'action de Dieu à ce que nous savons de lui? Nous connaissons beaucoup de choses de Dieu et nous pensons que c'est le tout. Nous connaissons l'Écriture et nous, des fois, on contraint Dieu à agir comme dans les Écritures. Faites-nous la même chose que dans les Actes. Genre, fais-nous un copier-coller. Mais l'Esprit de Dieu, il agit comme il veut. C'est la souveraineté de Dieu. Il a le droit de faire ça. Et parfois, on limite l'action de Dieu parce qu'on se dit, c'est pas la forme que j'attendais. C'est pas la forme que je reconnais. C'est pour ça que j'attends. Et il faut baisser la tête. Je ne suis pas quelqu'un de docile. Donc, je ne suis pas en train de vous dire ça légèrement. J'ai parfois enduré des problèmes d'obéissance dans ma propre chair. Donc, là, je suis en train de partager quelque chose qui ressemble à une confession. Le Seigneur m'a dit, comme aux Israélites, tais-toi et marche. Donc, on ne peut pas contenir Dieu dans ce qu'on sait de lui. Ça nous engage à entendre ce que Dieu dit, même hors de notre cas, hors de nos acquis, au-delà de ce que nous savons. C'était une jalousie mal placée aussi, de dire que les 70, que ceux qui étaient là. Parfois, on n'accepte pas que les choses passent par le frère ou la sœur, que Dieu nous parle, le Saint-Esprit nous parle par quelqu'un d'autre. Du ciel de qui, lui, pour me faire la suite. Et parfois, il est simplement porteur du message du Saint-Esprit. L'Esprit, il agit comme il veut. De ce verset de dénonciation, finalement, on se rend compte qu'Israël ne comprend pas parce qu'il s'attend à enfermer Dieu dans sa boîte. Et la jalousie déplacée. Je vous disais tout à l'heure que se plaindre, plutôt que de suivre, ça a fini par être de la rébellion. Et Dieu s'est mis en colère. Parce que sa volonté, elle est sainte. Et la sainteté ne supporte pas le péché. La plainte est devenue un péché. Parfois, on se plaint à juste titre. C'est des plaintes légitimes. Mais au-delà d'une certaine limite, ça devient du péché. On ne peut pas se plaindre que Dieu nous fasse faire des choses qu'on n'a pas envie. Qu'on n'a jamais fait jusqu'ici. On n'a jamais fait comme ça. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit nous emmène dans une nouvelle saison. Et on loupe le coche parce qu'on dit, on n'a jamais fait comme ça. Pourquoi on ferait différemment maintenant? Notre résistance au changement. On a peur de perdre le contrôle. On veut prendre les choses en main. Et on a peur de se faire discipliner. Ouais, Israël ne l'entend pas de cette oreille. Écoute, Israël. Qu'est-ce qui fait que Moïse, lui, était plus obéissant que l'Israël? Il a fait deux, trois bêtises. Hein. Si on lit toute l'histoire de l'Exode, on se rend compte que des fois, il a pris un peu de liberté et Dieu n'a pas manqué de lui signifier. Mais comment ça se fait que Moïse était plus obéissant? Parce que c'était le préféré de papa? Non. Pas ça. Il se trouve que Moïse, lui, il avait le droit d'entrer dans le tabernacle dans le Dieu Saint. Il avait le droit de se tenir devant l'arche et les chérubins toléraient sa présence. Il était au cœur des choses. Et là, Dieu parle à Moïse et Moïse parle à Dieu. Au chapitre 7, le verset 89 dit « Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait d'au-dessus du propitiatoire placé sur le coffre de l'acte de l'alliance entre les deux chérubins. Et il lui parlait. » Donc Dieu parle à Moïse comme à un ami, disent certaines traductions. On se rend compte là du privilège, de l'intimité. Et Moïse entendait Dieu à haute voix. Des fois, on aimerait bien dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et puis, ça, hop, un gros verset qui s'écrit sur le mur. Il y a une grosse direction qui se montre de façon très évidente. Il y a Dieu qui dit, fais ceci, fais cela, ça nous arrange. Moi, j'aimerais bien le faire. Mais c'est dans le cœur de la relation que ça se passe. On en parlait tout à l'heure de cette intimité. Donc lui, il entrait dans le lieu saint. Et là, il y a une relation prophétique qui voit Dieu. Prophétique, ça veut dire que Dieu délivre son message. Il n'y a pas seulement des lois, il y en a eu beaucoup. Il y en a encore dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas seulement des ordonnances, il n'y a pas seulement des interdits. Il y a une relation intime avec l'Éternel où Dieu délivre son message, sa volonté. Parfois, dans notre vocabulaire, on dit le cœur de Dieu. J'aimerais connaître le cœur de Dieu. J'aimerais connaître son intention. C'est une relation que le peuple n'a pas.
Peut-être que c'est ça qui a fait qu'il avait la peine à entendre et à obéir. C'est l'habitude et l'intimité de la relation qui font qu'on reconnaît sa voix. Ce qui a changé depuis les nombres pour nous, c'est que nous n'avons plus besoin d'entrer dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui est entrée en nous. Depuis la Pentecôte, où Jésus a envoyé l'Esprit, l'Esprit est dedans. On est devenu l'habitation de la présence de Dieu. Donc nous avons toute la Bible, nous avons 20 siècles de christianisme avec de l'histoire de l'Église, avec des exemples et des contre-exemples. Donc nous savons aussi tout ce qu'il ne faut pas faire, ce n'est pas la peine de réessayer si on sait que ça ne marche pas. Et nous avons l'Esprit en dedans. Quel privilège, quel avantage sur Israël. On voit que ce n'était pas le chouchou. Il nous faut, dans l'intimité de notre chambre, et c'est l'image suivante, cultiver la présence de Dieu en nous. Cultiver la présence de Dieu en nous pour recevoir son travail, le travail de l'Esprit en nous. L'Esprit, le Saint-Esprit a beaucoup d'actions en nous. Il nous révèle les choses, il nous les fait comprendre, il nous enseigne. Il transforme notre cœur, il nous rappelle des choses que nous avons apprises. Tout ce travail, on ne peut le constater que de l'intérieur, dans l'intimité du cœur à cœur avec Dieu. Israël avait des colonnes de feu et de nuée. Aujourd'hui, ces colonnes, elles prennent des formes très diverses. Il n'y a pas que les manifestations surnaturelles qui sont la vie de l'esprit, même si c'est le cas. C'est clair qu'un miracle, c'est un miracle. Mais quand il n'y a pas de miracle spectaculaire à nos yeux, il y a des miracles qui se passent à l'intérieur. Quand Dieu me rend obéissante, je serais d'avis de dire que c'est un miracle en soi. C'est le compagnonnage de Dieu, son habitation en nous, qui opère la transformation. Nous avons tant de possibilités de mettre notre foi en œuvre. Un peu de discipline avec la lecture des Écritures. Et c'est un ouvrage à remettre 100 fois sur le métier. Des temps de prière fixe, comme des rendez-vous qui entretiennent un amour. Pas des rendez-vous d'affaires, des rendez-vous d'amoureux, des rendez-vous de communication, des rendez-vous où on se retrouve pour ne rien faire, juste pour être ensemble. Nous avons des milliers de commentaires qui nous expliquent ce que nous ne comprenons pas de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vient ouvrir ça en nous. Parce que le travail des hommes, c'est le travail des hommes. Et même parfois, la Bible peut ne pas nous faire d'effet si le Saint-Esprit ne l'actionne pas. Et nous avons besoin d'entrer dans cette démarche et de dire au Saint-Esprit, montre-moi, ouvre les choses pour moi, ouvre mes yeux. Nous avons le privilège de vivre en Église, d'organiser des études bibliques, d'échanger des témoignages. Je trouve que les témoignages, ça montre comment Dieu agit actuellement. On aime bien rappeler ce que Dieu a fait dans l'Écriture et c'est fondamental, on est d'accord. Mais le témoignage des uns ou des autres, c'est comment Dieu agit aujourd'hui, ici et maintenant, dans notre quotidien. Parce que Dieu intervient dans l'histoire. La Bible s'arrête avec l'histoire de Jésus, mais l'histoire d'amour de Dieu et de l'humanité, elle continue. Comment est-ce qu'on arrive à cultiver cette présence de Dieu en nous? Comment est-ce qu'on fait, nous, personnellement? Un couple ne ressemble pas à un autre. Un couple ne vivra pas les mêmes choses que des frères, que son frère et sa sœur, par exemple. Moi, je ne vis pas le même couple que ma sœur vit avec son mari. Comment est-ce que Dieu me rencontre? Parce que l'habitation de Dieu en nous, par le Saint-Esprit, rendu possible par le Christ, continue. À ce jour, Christ à l'intérieur de nous-mêmes continue à bâtir l'Église par le Saint-Esprit. Quelles que soient les circonstances, même dans le désert, même dans la crise sanitaire. À la fin du livre des Nombres, il y a l'épisode du serpent des reins. Je me demande quel serpent le Seigneur va nous sortir pour qu'on sorte de cette crise. Je crois qu'il y a quelque chose à comprendre, qu'on n'a pas encore compris, puisqu'il y a une deuxième et une troisième vague. Je ne sais pas combien de vagues il faudra pour qu'on comprenne. Mais il y a quelque chose à comprendre. Il y a un salut à trouver. Il y a une espérance à partager. Il ne suffit pas d'être touché par la parole de Dieu, d'être ému par le Saint-Esprit, d'être réjoui et d'être le chéri de papa. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Écouter, c'est rencontrer Dieu et le laisser parler. C'est apprendre à le reconnaître en tant que souverain et renoncer à discutailler. C'est obéir. C'est laisser Dieu me parler à travers l'autre, accepter que l'autorité de Dieu passe par quelqu'un d'autre. C'est dans le développement de notre amitié intime avec Dieu, dans ce lieu très saint de la personne de Jésus qui habite en nous. C'est dans une sécurité de filiation, dans une écoute dépouillée de nos désirs, que nous pouvons trouver la capacité de reconnaître la nuée ou la colonne de feu, et que nous pouvons dire et vivre avec joie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car Dieu parle, mais il entend et il agit. Est-ce que Dieu nous invite aujourd'hui à développer quelque chose de cette relation? Est-ce qu'il nous invite à reprendre des choses que nous avons un petit peu délaissées? On fatigue, hein, dans ce climat délétère, on fatigue, on s'épuise. Des fois, j'ai l'impression que Dieu ne me dit plus rien. Et puis, quand je regarde mon agenda, je suis toute surprise de voir que je ne lui ai pas accordé beaucoup de temps tête à tête. Il ne s'agit pas de se culpabiliser. Il s'agit de prendre un nouveau départ. Et dans cette intimité où Dieu nous fortifie, il nous rend capable de résister à cette déprime qui est ambiante. On est des porteurs d'espérance. Pour que cette espérance reste vivante, il nous faut cultiver la présence de Dieu en nous. On a besoin de se tenir dans le lieu saint, en Jésus. On a besoin de faire une offrande de notre vie. Ça demande du sacrifice. On a besoin d'être baigné dans le Saint-Esprit. Et après, on peut dire, quand Dieu dit « Écoute Israël », l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Et on peut dire, j'aime l'Éternel, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Les commandements qu'il me donne aujourd'hui sont dans mon cœur. Je vous invite à laisser descendre ça un tout petit peu dans le silence. On peut afficher la prière avec l'image qui suit. Peut-être que ça vous aide à mettre des mots sur des choses. Est-ce qu'il y a... Merci de me faire la grâce de rechercher mon amitié que nous ne méritions pas. Je veux entendre ton invitation à plus d'intimité, d'amitié, de connaissance. Aide-moi à cultiver ta présence, Seigneur, cultiver ta voix, ton propos, ta guidance, pour que tu puisses placer en moi, par l'action du Saint-Esprit, la capacité de te suivre en sécurité. Montre-moi si au-dedans de moi, quelque chose fait que je n'entends pas très bien ta voix et que par ta grâce, j'en sois libérée. »